Les populations des sociétés contemporaines se sont profondément diversifiées en raison de l'accroissement des flux migratoires au cours des dernières décennies. Ceci est le cas de la plupart des pays occidentaux, mais c'est aussi le cas de très nombreux pays du Sud. En Europe, la diversification des populations tient notamment à l'installation de migrants et de réfugiés provenant de pays toujours plus variés. L'arrivée de réfugiés est sans aucun doute une des causes de la multiplicité des pays d'origine, des langues, des cultures, des nouveaux venus dans les pays d'installation. Par ailleurs, l'Europe est aussi confrontée, en raison de son élargissement, à une augmentation de la mobilité interne des ressortissants provenant de pays européens, du sud vers le nord ou encore de l'est vers l'ouest ou vers le sud. Migration et mobilité contribuent à accroître les origines nationales et culturelles des populations européennes et nationales. La globalisation participe à l'approfondissement de ce processus malgré la construction de murs matériels et mentaux. Toutefois, il ne suffit pas que les populations se diversifient pour qu'apparaisse l'ethnicisation de la société. L'ethnicisation des sociétés contemporaines en Europe résulte d'une lecture de la société, une vision et une division du monde qui opposent les individus en fonction de leur origine nationale et culturelle. L'ethnicisation est en cela une forme de catégorisation des populations. Il s'agit d'un rapport social entre des groupes sociaux qui se construisent des frontières ethniques définissant des « nous » et des « eux ». L'ethnicisation de la société repose souvent sur la création d'un groupe d'individus qui se définit comme majoritaire, le « nous » historique, et qui qualifie d'autres individus de « eux » comme appartenant à un ou à des groupes minoritaires. Les indicateurs utilisés pour justifier ces frontières ethniques sont multiples et renvoient souvent à la langue, aux pratiques culturelles, mais rarement aux appartenances sociales et socioprofessionnelles. Cependant, l'ethnicisation traduit le plus souvent une opposition entre le groupe ethnique majoritaire, qui se considère comme étant le plus anciennement installé dans un pays, alors que les groupes ethniques minoritaires sont perçus comme des nouveaux venus. Dans certains cas, l'immigration n'est pas la source de l'ethnicisation de la société. Ainsi, il ne faut jamais oublier que de très nombreux États-nations, dans le Nord et dans le Sud, se sont constitués sur la base de groupes nationaux qui se définissent comme des communautés ethno-culturelles différentes. Ce qui est le cas, par exemple, du Canada, de la Suisse, de la Belgique, mais aussi de la Roumanie, de la Hongrie ou encore du Burundi, du Rwanda. L'ethnicisation de la société ne signifie pas automatiquement mise en péril de la nation. Parfois, l'ethnicisation est constitutive même de la création nationale. La création de la nation à partir d'une identité forte, homogène et partagée est un véritable mythe. La construction nationale est au contraire un processus d'homogénéisation qui s'est opéré notamment par l'imposition d'une langue nationale. L'immigration est consubstantiellement attachée au racisme. Ceci tient au fait que la légitimité de la présence du migrant sur le territoire national est toujours contestée. Le racisme est, de ce fait, partie prenante de l'histoire de l'immigration et on pourrait dire des histoires singulières des diverses migrations. Ce racisme se construit le plus souvent à partir de préjugés à l'encontre de cet autre inconnu qui est souvent associé à une masse d'individus homogènes et menaçantes. La rhétorique des vagues migratoires est là pour nous rappeler le sentiment de peur qui est associé à l'invasion d'une population inconnue qui arrive en nombre. De multiples travaux scientifiques ont établi depuis de très longues années que cette peur de l'autre s'atténue avec le contact avec cet autre inconnu lorsque l'empathie fait place à la peur. Les préjugés raciaux constituent en cela plus le fondement de la xénophobie que du racisme. Le racisme est plus structurellement inscrit dans les pratiques, les représentations et les institutions. Le racisme est un rapport social qui est basé sur l'ethnicisation de la société. La définition d'un « nous » comme groupe ethnique peut être le fait d'un groupe minorisé. Il peut s'agir d'une autodéfinition, par exemple « nous les Arabes ». Par contre, le racisme ou la racialisation d'un groupe repose toujours sur une qualification de certains individus comme « autres », définis comme « autres » par les individus appartenant au groupe majoritaire. Ces migrants, ces autres, sont perçus comme tels et voient leur identité réduite à celle d'un groupe stigmatisé et discriminé. Ils sont assignés à une identité qu'ils n'ont pas nécessairement choisie. Le racisme est en cela un rapport de domination qui autorise la discrimination et le déni de reconnaissance des membres du groupe racisé à prétendre à l'égalité de droits et au droit d'estime. Ainsi, le racisme est un discours qui autorise à suspendre le principe d'égalité. Les personnes racisées peuvent se voir retirer des droits, comme le droit au travail, le droit au logement, le droit à certains bénéfices des allocations sociales, par exemple. Avec le temps, le racisme à l'encontre de certains migrants peut diminuer. Ce fut notamment le cas des migrations des descendants de migrants provenant des pays du Sud, qui sont devenus des cousins du Sud, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, pour les populations françaises, belges ou allemandes. Par contre, des individus de certains groupes sont marqués par l'héritage sociologique de la migration et du racisme. En Europe, c'est particulièrement le cas des descendants des migrations coloniales, des descendants des migrants marocains et turcs, et plus généralement des musulmans ou de ceux qu'on qualifie comme tels. Les individus de ces groupes sont devenus de véritables groupes raciaux dont la légitimité de la présence sur le territoire européen est toujours remise en question. Et pourtant, ces individus sont nés en Europe, et très souvent leurs parents aussi. Le retour du nationalisme conduit à renforcer le racisme, en particulier envers les populations qui ne sont pas qualifiées de blanches, chrétiennes ou laïques, et touche ainsi des individus dont un ascendant a émigré en Europe. Le racisme est ainsi toujours lié à l'immigration, aux nouveaux venus, mais également parfois à des groupes de descendants de migrants. Il est aussi important de rappeler que le fait d'avoir été migrant ne constitue pas un antidote contre le racisme. Des migrants ou des descendants de migrants peuvent eux aussi formuler des préjugés raciaux ou avoir des attitudes racistes envers les migrants venus dernièrement. Ceci nous rappelle que le racisme n'est pas une substance, mais est avant tout un rapport social de classement. Le racisme parmi les migrants répond en cela à un principe du dernier sur l'échelle sociale, ferme la porte à celui qui prétend vouloir commencer à monter sur l'échelle sociale. Étant donné que la plupart des pays européens n'ont jamais véritablement reconnu qu'ils étaient et sont des pays d'immigration, l'intégration reste un sujet polémique et controversé. L'intégration est devenue une épreuve par laquelle les migrants et les descendants doivent fournir des preuves, le plus souvent de conformité culturelle. L'intégration sociale, économique, politique ne suffit plus. L'intégration devient un signe de mérite, culturel notamment, qui se vérifie en particulier avec les nouvelles politiques d'intégration en Europe et l'acquisition de la nationalité. Le discours sur l'intégration constitue en cela de plus en plus une métamorphose d'un discours racisant. Ceci tient au fait que la personne qui doit s'intégrer part avec un handicap. Elle est suspectée de ne pas pouvoir y arriver. Ce processus tient au fait qu'en Europe, l'intégration a toujours fonctionné comme une double contrainte qui pourrait trouver sa traduction dans l'expression suivante. Vous êtes là, on vous accepte, mais ce serait tellement mieux si vous n'étiez pas là. Cette expression, jamais formulée comme telle, se trouve au fondement de très nombreux discours sur l'intégration des immigrés, et ce, partout en Europe. Il est vrai que l'intégration est souvent entendue dans son interprétation quasi biologique de la culture, celle du passage de l'extrême différence culturelle à la ressemblance la plus radicale. Et pourtant, de nombreuses études scientifiques tentent plutôt à montrer que les populations issues de l'immigration sont très majoritairement intégrées. Toutefois, il est vrai, et il faut le reconnaître comme tel, elles rencontrent des problèmes scolaires, sociaux, économiques, culturels, religieux et politiques. Le racisme et la discrimination constituent en cela des discours et des pratiques qui servent à mettre de la distance là où il y a de la ressemblance. Le racisme peut alors devenir systémique et institutionnel. La ségrégation spatiale, basée sur une dimension sociale et ethnique, est le résultat d'un processus de racialisation institutionnelle. Par ailleurs, ce procès en non-intégration se cristallise particulièrement sur les populations dominées de notre société démocratique. Par contre, il ne viendrait jamais à l'idée de dire que des individus appartenant aux élites économiques et sociales, qui sont le plus en sécession dans notre société contemporaine, s'enfermant dans des gated communities, ne sont pas intégrés. Le racisme devient en cela un argument de division pour penser la distribution des biens rares, comme l'emploi, le logement, auprès de populations précarisées, qui sont mises en compétition, constituées en communautés rivales, pour penser l'identité des citoyens légitimes, les vrais nationaux.